posons-nous les bonnes questions pour accélérer la transition écologique des collectivités. Avec Territoire et Sobriété, le podcast de l'ADEME et du ministère de la Transition écologique, partons pour un tour de France d'initiatives locales en faveur de la sobriété matérielle. Retrouvez les épisodes sur www.epargnonsresources.gouv.fr/collectivité.
Bonsoir, dans l'actu du jour, il y a cette fuite rocambolesque de République dominicaine de deux pilotes français condamnés pour trafic de stupéfiants. Conférence de presse cet après-midi, muets sur leur évasion, ils assurent vouloir s'en remettre à la justice française. On va pas en dire plus, mais il apparaît au travers de cette histoire, eh bien, que l'aviation d'affaires, que les jets privés serviraient de plus en plus à toutes sortes de trafics en tout genre, du cash, de la drogue, des œuvres d'art. Alors les jets privés sont-ils les nouveaux vaisseaux des contrebandiers? Voici les décodeurs de l'écho.
L'écho s'éclaire sur BFM Business. Fabrice Lundy reçoit les décodeurs de l'écho.
Ah, ça va être passionnant, on va rentrer dans les coulisses de l'aviation d'affaires. Est-ce qu'il faut vraiment jeter l'opprobre sur les jets privés? On verra, on va en parler évidemment avec nos décodeurs de l'écho. Je vais les présenter dans une poignée de secondes. Notez ce rendez-vous tout à l'heure à 20h. On sera avec Richard Attias, l'organisateur du Forum économique de la francophonie. C'était aujourd'hui à Paris avec des chefs d'État, des chefs d'État et de gouvernement. Oui, la francophonie se met-elle au service de l'économie? La francophonie, vecteur de développement économique et non plus forcément vecteur de culture, vecteur de politique. Ce sera donc dans une quarantaine de minutes pour nous parler de l'aviation d'affaires. Avec nous, il y a Gilles Gompers, il est directeur général d'Avico. Avico, c'est le premier courtier aérien français en affrètement, hein, affrètement d'avions, affrètement d'hélicoptères. Et ces avions, ils se posent où? Ils se posent sur des pistes. Et voici Franck Goldnadel avec nous, directeur général adjoint d'ADP, directeur chargé des opérations aéroportuaires. Et c'est le patron de Charles de Gaulle, parce que Aéroport de Paris, c'est évidemment le géant Charles de Gaulle, bien sûr, c'est aussi Orly, mais c'est aussi Le Bourget, l'aéroport d'affaires, plus des tas de petits aéroports comme Toussul-Nope, Saint-Cyr-l'École, Pontoise. Il va nous en parler dans un instant. Charles Prats est aussi avec nous au rendez-vous. Comme à chaque fois qu'il est question de législation, de prévention, de répression. Alors Charles Prats, il vient avec trois casquettes. Il est actuellement magistrat, il a été douanier dans une vie précédente, et puis de temps en temps, eh bien, il se met au poste de pilotage d'un avion pour piloter des avions plus ou moins gros. Voilà, on les attend évidemment avec impatience. Oui, cette affaire de Air Cocaine, hein, on vous en a parlé évidemment sur BFM Business. C'est donc l'occasion de se pencher sur l'aviation d'affaires. Oui, l'aviation d'affaires qui serait bien vecteur maintenant de toutes sortes de trafics en expansion ou pas. On voit ça tout de suite avec Isabelle Gollens.
Louer un avion privé et y transporter ce que l'on veut en toute tranquillité, rien de plus facile. C'est presque une règle établie. Avion d'affaires équivaut à confidentialité. Lors d'un vol en jet privé, les bagages ne sont que très peu contrôlés, les douaniers quasi absents et les plans de vol peuvent se faire en toute discrétion. Rien qu'en Suisse, par exemple, il existe 29 aéroports sans bureau de douane. Il y en a même sans tour de contrôle. En France, un petit avion a été intercepté sur un aérodrome du Pas-de-Calais avec à son bord 63 kilos d'amphétamine. Mais le premier produit qui circule en toute illégalité, c'est l'argent liquide. Il y a quelques années, un comptable de la Banque du Vatican avait été mis en cause pour avoir tenté de faire passer plusieurs millions d'euros dans les soutes d'un avion d'affaires. D'autres peuvent transporter des tableaux de maître ou des bijoux. On estime que les trajets illégaux représentent 7% du trafic d'affaires européen. Alors, les jets privés comme outil d'évasion fiscale. En tout cas, Europol, la police européenne, dénonce régulièrement la situation, à commencer par de simples fraudes à la TVA que ce moyen de transport permet facilement de ne pas déclarer et donc de ne pas payer.
Voilà Isabelle Gollens qui se demandait justement, tiens Charles Prats, est-ce que l'aviation d'affaires est un outil d'évasion fiscale, outil de façon générale pour des trafiquants tout genre, vrai, faux?
L'aviation d'affaires ou pas d'affaires, d'ailleurs, vous pouvez même prendre des machines beaucoup plus petites, donc beaucoup plus discrètes, c'est un moyen de transport. Donc à partir du moment où vous devez transporter quelque chose, soit vous le transportez par voie terrestre, soit par voie maritime, soit par voie aérienne. Donc forcément, l'aviation ne peut qu'être un vecteur potentiel de fraude, mais au même titre que les bateaux ou bien les véhicules, les camions, les semi-remorques ou les voitures particulières.
Mais est-ce que c'est un phénomène en expansion, à votre avis, Charles Prats?
Non, c'est pas un phénomène en expansion. Regardez, par exemple, une affaire qui avait un peu défrayé la chronique, quand on avait retrouvé un Boeing 727 en Afrique, qui s'était posé sur une piste de fortune et qui avait été abandonné par les trafiquants sur place. Voilà. On savait très bien que cet appareil, qui était un appareil déclassé, avait servi à transporter de la cocaïne par la route africaine et après que ça remontait en Europe, par les pays du Maghreb. Mais voilà, c'est pas quelque chose de nouveau, tout comme les trafiquants de stupéfiants utilisent aussi des sous-marins maintenant. C'est un vecteur qui existe. Vous voyez, on parle des avions, mais on peut même vous expliquer que le trafic de drogue peut se faire par sous-marin.
Ce sera l'objet d'une prochaine émission.
Soit des sous-marins autonomes.
Les sous-marins sont les nouveaux vaisseaux.
Soit des sous-marins qui sont tirés par des bateaux et où on enferme la drogue. Et donc, pour les repérer, il faut un vecteur aérien, il faut un avion, parce que d'en haut, on repère le sous-marin beaucoup plus facilement que par bateau. Donc il faut pas jeter l'opprobre sur l'aviation, parce que le danger, c'est que derrière, on est en France, on va avoir encore plus de réglementation. Et le problème, quand on pilote, c'est qu'aujourd'hui, on est même plus libre de voler tranquillement. Donc il faut faire attention à ce qu'on dit, parce que certes, le vecteur aérien est un vecteur de transport, donc forcément un vecteur de transport de fraude, mais ce n'est pas pour autant qu'il faut jeter l'opprobre soit contre les compagnies d'aviation privées, soit contre les pilotes privés, parce que les pauvres n'y sont en général pour rien.
Alors Gilles Gompert, justement, qui représente quelque part les compagnies privées, puisque vous faites de l'affrètement justement d'appareils pour toutes sortes de compagnies. Vous faites beaucoup d'affrètement pour en aviation d'affaires, bien sûr.
Oui, tout à fait. Mais là encore, remettez dans le contexte. Vous avez une compagnie qui a affrété son avion, qui se retrouve totalement piégée par le système. Ces deux pilotes qui sont en prison pour 20 ans et l'avion qui est confisqué. Allez m'expliquer que c'est un but pour l'aviation d'affaires et pour la compagnie qui était impliquée dans ce vol que transporter de la drogue. C'est juste pas possible. Honnêtement, qu'est-ce qui peut arriver de pire à part un accident à une compagnie comme celle-ci? Elle a tout à perdre et quasiment rien à gagner. Il y a des gens qui sont fait
même
piéger,
si, pardon,
il y a des gens qui l'ont piégé.
Même si on sait que le trafic de stupéfiants véhicule quand même des sommes considérables.
Bien sûr.
Est-ce que ça vaut pas le coup de temps en temps d'aller prendre un risque? Je me fais l'avocat du diable en disant
ça. Pour un trafiquant, bien sûr. Mais effectivement, quand on voit les voitures, les GoFast, etc., est-ce qu'on va incriminer BMW parce que le trafiquant avait une BMW? Non. Non. C'est un moyen, c'est un support. Et la compagnie n'a rien à gagner à rentrer dans un trafic par elle. C'est elle qui porte tout le risque. Elle n'a pas le bénéfice, elle a tout le risque. Ne pensez pas effectivement que la compagnie est demandeuse de ce type de vol. Jamais.
Quand même, c'est Isabelle Gollens qui nous rappelait donc ce chiffre. C'est un chiffre de l'Association européenne de l'aviation d'affaires, c'est-à-dire l'association qui recouvre tous les professionnels du secteur, qui s'inquiète de ces pratiques, qui estime que les vols illégaux sont estimés à environ 7% du trafic d'affaires européen. Ça vous semble un chiffre raisonnable ou pas? Quand on parle de trafic illégaux, c'est-à-dire soit le statut de l'appareil n'est pas conforme, soit il y a une fraude dans la déclaration du trajet.
C'est-à-dire je serais très curieux, effectivement, de voir comment se décante ce 7%.
Oui.
Ce chiffre-là, il me paraît parfaitement aberrant par rapport à l'organisation du marché. Je veux dire, qui sont les premiers clients de l'aviation d'affaires? Ce sont les patrons du CAC 40 qui vont faire des affaires, comme le nom l'indique. Et effectivement, vous avez forcément des trafiquants à la marge qui vont essayer d'utiliser ce moyen quand la voiture ne marche pas, quand le bateau est moins pratique. Mais c'est tellement marginal que je ne vois pas à quoi peut correspondre ce chiffre de 7%. Qui est effectivement... que ce soit un vecteur de trafic, qu'il y ait des erreurs de déclaration, qu'il y ait des gens qui fassent des choses qui ne sont pas autorisées, oui. Mais dire qu'il y a 7% de trafiquants, ça me paraît totalement impossible.
Charles Prats.
Alors, c'est amusant, je ne connaissais pas le chiffre de 7%, mais ce chiffre de 7%, c'est le chiffre moyen de fraude qu'on retrouve partout. C'est-à-dire quand on regarde la fraude fiscale, quand on fait des...
On dit c'est 7%.
On se rend compte que c'est 6 à 7%. Quand on regarde les fraudes aux cotisations sociales, c'est 6 à 7%. Quand vous discutez avec les assureurs privés sur les taux de fraude à l'assurance, le taux de fraude qu'on retrouve en estimation, c'est toujours dans les 7%. Et donc là, je vais finir par croire que le chiffre de 7%, c'est le taux de fraude naturel dans les activités humaines. Bon, voilà. Non, moi, objectivement, ça ne m'étonnerait pas. Effectivement, c'est un vecteur de transport et donc il est utilisé par des trafiquants, comme ils utiliseraient un bateau ou comme ils utiliseraient une voiture.
Mais pas forcément un phénomène en expansion. Quand Europol, qui est un petit peu l'organisme policier, donc au niveau européen, s'alarmait déjà de l'augmentation de l'utilisation d'avions légers donc pour faire du trafic, c'était il y a 2 ans, phénomène qui existait outre-Atlantique, qui arrivera en Europe, parce que aux États-Unis, dans toute cette grande zone Amérique, c'est utilisé largement entre le Mexique, les États-Unis, Mexique, Antilles, Amérique centrale. Oui. Charles Prats.
Là-dessus, je parle sous le contrôle de Monsieur Goldnadel.
On va lui donner la parole.
Qui connaît ça mieux
que
moi.
L'un des patrons d'ADP.
Sur la notion de fichage des vols aériens, mais c'est vrai que quand vous avez un franchissement de frontières, vous êtes tenu de faire un plan de vol.
Ouais.
Donc déjà, ça veut dire que vous rentrez dans un système de déclaration, donc vous êtes fiché, donc vous êtes suivi. Après, si vous volez, sauf si vous passez en radada dans des zones, au ras du sol, dans des zones non contrôlées, vous êtes tenu d'avoir un transpondeur, donc avec un alticodeur, vous êtes suivi quand vous êtes en l'air. Donc c'est un peu compliqué. C'était plus facile de faire de la contrebande aérienne avant qu'aujourd'hui, très clairement. Sauf si vous utilisez, non pas des avions privés de compagnie privée, mais du petit matériel aérien qui va réussir à passer un petit peu sous le radar, non pas le radar en tant que tel, mais sous le radar informatique des obligations déclaratives. Là, effectivement, vous avez des possibilités de faire un tas de choses.
Et ça existe, hein, ces appareils invisibles, en quelque sorte, Gilles Gompert.
Oui, mais objectivement, vous allez en trouver dans la Caraïbe, dans des zones où le contrôle est beaucoup moins tenu qu'en Europe. Mais vu les densités de trafic que vous avez sur l'Europe, vous avez un maillage, effectivement, de contrôle aérien qui est extrêmement dense. Et là, passer au travers des mailles du filet sur des grandes distances pour franchir des frontières, pour rentrer en Europe, ça devient beaucoup, beaucoup plus compliqué.
Alors, cas concret, justement, Frank Goldendal est avec nous, donc c'est l'un des grands patrons d'aéroports de Paris. Il dirige Charles de Gaulle. Mais on va mettre Charles de Gaulle peut-être de côté, hein, parce que c'est quand même, bon, c'est du trafic intercontinental, du trafic européen, ce sont des gros appareils. Là, on va parler plutôt de l'aviation d'affaires. Imaginons, je loue un avion d'affaires, un petit appareil, un Falcon ou un autre, que me louerait par exemple Gilles Gompers avec l'une de ses nombreuses sociétés. Très bien, je veux décoller par exemple de Toussul-Noble, j'ai dans les cales des choses qui sont peut-être pas forcément déclarables. Alors, imaginons des stupéfiants, de l'argent, du cash, et puis j'ai envie d'aller, de l'emmener je sais pas où, au Danemark ou en Suède. Concrètement, qu'est-ce qui se passe pour moi?
Ce qui se passe, c'est que, un peu comme l'a dit Charles Prats tout à l'heure, vous êtes quand même dans un système qui est suivi. Vous déposez un plan de vol, donc vous avez un certain nombre d'acteurs, services de l'État en particulier, qui vont contrôler un certain nombre de choses. Vous n'êtes pas en plein milieu d'une jungle. Vous déposez un plan de vol, donc la Direction Générale de l'Aviation Civile a un certain nombre d'informations. Les services de l'État ont un certain nombre d'informations. Et les services de renseignement aussi. Et sans vouloir répondre à votre exemple précis, mais vous disiez mettre de côté Charles de Gaulle. Mais en fait, quand vous regardez l'aviation d'affaires aujourd'hui, elle est régie par des règles pratiquement identique,
d'accord.
En matière de sûreté, en matière de dépôt, en matière d'information. Je prends l'exemple de l'aéroport du Bourget, premier aéroport d'aviation d'affaires.
Plus de 50 000 mouvements chaque année.
En Europe, aujourd'hui, tous les passagers qui partent du Bourget subissent un contrôle d'inspection filtrage. S'ils vont à l'extérieur de l'espace Schengen, passent un contrôle de police, de l'air et des frontières. Vous voyez qu'il n'y a pas énormément de différence avec les aéroports d'aviation, on va dire, civile, de transport aérien. C'est exactement la même chose. Des personnels vont être inspectés, filtrés pour ceux qui travaillent dans la zone réservée de l'aéroport. Donc, je crois qu'il faut effectivement un peu démystifier les choses. Il n'y a pas une zone de non-droit qui est l'aviation d'affaires et les aéroports d'affaires et puis d'autres aéroports qui seraient des zones où il y a des contrôles. Il y a des contrôles partout, y compris dans l'aviation d'affaires. Les services de l'État, la réglementation s'impose aussi à ces aéroports-là et un certain nombre de contrôles sont faits, soit par les services de l'État, soit par des autorités européennes pour vérifier que tout est bien sous contrôle.
Est-ce que dans tous les aérodromes de France, alors au-delà de ceux que vous contrôlez, vous, aéroport de Paris, Frank Goldendal, est-ce qu'à votre connaissance, il y a des fonctionnaires dans chaque aérodrome, un policier, un douanier? C'est-à-dire que, par exemple, si j'arrive dans un petit aérodrome, j'en sais rien, moi, de la Marne, de l'Aisne, je ne sais où, en provenance de l'étranger, est-ce que spontanément, il y aura un douanier qui sera à ma rencontre, qui me dira, tiens, monsieur Lundy, regardez donc, je vais regarder ce que vous avez à l'arrière de l'avion?
Alors d'abord, je suis certainement le plus mal placé pour vous répondre à cette question autour de la table.
Vous êtes Paris, vous.
Puisque moi, j'essaye de faire en sorte de m'occuper des plateformes parisiennes. Et donc, effectivement, ce que je peux vous dire sur les plateformes parisiennes, les services de l'État sont présents ou sont capables d'intervenir en fonction de la taille de l'aérodrome d'aviation générale, évidemment, parce que il y a des règles, en particulier si vous quittez l'espace Schengen ou si vous y rentrez, et donc il y a un certain nombre de contrôles sont faits. On a plusieurs réunions avec les différents services de l'État, police de l'air et des frontières, gendarmerie du transport aérien et douane, ainsi que d'autres services qui sont en charge de faire des enquêtes. Voilà, et je ne vais pas m'apesantir sur leur rôle, mais ils le font à la fois en toute discrétion, mais sont capables de contrôler un certain nombre de choses. Et donc voilà, donc je pense qu'il faut, encore une fois, être dans un domaine du raisonnable. Dans l'aviation d'affaires comme dans l'aviation de transport, il y a des contrôles.
Charles Prats.
Alors, globalement, si vous venez d'un pays tiers avec franchissement de frontières, vous êtes tenu de vous poser sur ce qu'on appelle un aérodrome douanier. Voilà. Donc vous ne pouvez pas, quand vous déposez votre plan de vol, dire que vous arrivez d'Afrique et que vous allez aller vous poser sur
Trifouille-les-Oies,
une piste en herbe à Trifouille-les-Oies.
Ça, c'est Tarnémeuse, voilà, possible. Très bien.
En intra-européen, oui. Et donc la douane, ou la PAF d'ailleurs, puisque ce que les gens ne savent pas, c'est que la police aux frontières dispose aussi de brigades de police aéronautique. Il y en a une douzaine, 11 ou 12 en France. Et la douane a une division qui s'appelle la division aéroterrestre, qui est basée à Duny, au Bourget, à la capacité, avec des petits avions d'ailleurs, d'intervenir sur des pistes secondaires, qu'on appelle des aérodromes secondaires, pour venir au contact et faire des contrôles inopinés. Bon. Alors, se pose le problème, c'est qu'il y aurait éventuellement une volonté de démanteler justement cette division aéroterrestre des douanes. C'est un sujet qui est sur la table depuis quelques semaines, et donc qui pose question, parce que du coup, la capacité d'intervention aérienne de la douane serait réduite d'autant. Bon, ça, c'est un autre sujet, mais c'est vrai que le débat de ce soir permet de mettre ça sur la table. Donc les services de l'État ont des capacités d'intervention. Mais le principe, c'est que quand vous arrivez d'un pays tiers, vous devez arriver sur un aérodrome douanier où les services de l'État sont là.
Sont présents.
Alors après, parle de renseignement, c'est sûr que si vous déposez un plan de vol avec une volonté de vous poser sur un aéroport ou sur un aérodrome où il n'y a pas de service de l'État, immédiatement ça va mettre la puce à l'oreille. Ce qui n'empêchera pas éventuellement un détournement du plan de vol, un déroutement en route et après toutes les possibilités de fraude bien sûr qui existent.
Oui, cette affaire Air Cocaine a donné lieu à l'écriture d'un livre. On entendra l'un de ses auteurs, Marc Le Plongeon, d'ici quelques minutes. Livre de Marc Le Plongeon, Jérôme Pira, donc Mafia et Jet Privé. Hein. Je lis un extrait du livre de cette affaire Air Cocaine. Interrogé par la juge d'instruction dans l'affaire Air Cocaine, le directeur des services douaniers de Roissy livre un témoignage éclairant. Pour tous les vols internationaux, il y a obligation de déposer un plan de vol qui est entré dans un système nommé Sigma. Ce sont des vols annoncés, les lettres X pour vols spéciaux, G pour privé, N pour commercial. L'officier confirme, au Bourget, n'être au courant de l'arrivée d'un vol que quelques heures avant qu'il n'atterrisse. Surtout, il n'en connaît jamais le trajet exact. Ça veut dire quoi ? Il y a des failles ou pas ? Charles Prasse, Franck Golnadel ?
Non. Vous êtes tenu, si mes souvenirs de réglementation sont exacts, de déposer votre plan de vol au moins 60 minutes avant le décollage. Voilà. Donc, si ça
60
vient...
60 minutes plus le temps du voyage.
Plus le temps de vol. Vous avez un préavis pour l'intervention des services qui est quand même relativement long. Surtout pour le Bourget. Le Bourget, c'est pas très très compliqué pour les services d'être sur place. Donc vous avez quand même du temps de préavis.
Franck Goldenel.
Oui, j'irai même plus loin. Les services de l'État sont sur place. Il y a eu un travail de fait très important par la police de l'air et des frontières ainsi que les douanes, à la fois au niveau de l'information et de la présence et des contrôles, car on le sait pas souvent, mais au Bourget, en fait, vous passez par ce qu'on appelle des LBO, c'est-à-dire des organismes d'assistance qui vous traitent en tant que passager ainsi que vos bagages. Donc vous êtes soumis à des contrôles de sûreté et vous passez, dès lors que vous quittez l'espace Schengen, vous passez des contrôles de police et la police de l'air des frontières a demandé dans chaque bureau ou en tout cas site d'assistance d'avoir la capacité de faire des contrôles. Il y a eu de grandes améliorations dans ce domaine-là.
Oui, alors Gilles Gompers, quand même, l'exemple du Bourget, alors apparemment donc bien tenu, bien surveillé, bien contrôlé, mais... Il y a des tas de petits aérodromes. L'aviation d'affaires, elle est clairement concentrée dans les petits aéroports, les petits aérodromes quand même.
Oui, tout à fait. Et c'est un des intérêts justement des avions d'affaires, c'est d'aller là où il n'y a pas le volume pour faire des avions de ligne. Voilà. Tout à fait. Ceci étant, les aéroports sont de taille modeste. Comme on le disait, on ne peut pas faire de vol international sans prévenir les services de l'État et sans avoir un contrôle effectif. Alors après, effectivement, vous pouvez imaginer toutes les tromperies. En revanche, vous le disiez vous-même tout à l'heure, le plan de vol qui est déposé, il indique le point de départ, il indique la destination. Quand on commence à dire que l'avion ne va pas suivre son plan de vol, qu'il va aller se poser dans un coin sombre pour aller charger des marchandises illicites, on est quand même déjà dans des éléments qui sont extrêmement compliqués à mettre en œuvre. Bien sûr, ça peut arriver. Mais là encore, pourquoi est-ce qu'on parle de démanteler des services de douane ? C'est parce qu'ils ne trouvent pas grand-chose alors qu'ils cherchent.
J'ai une remarque d'un auditeur, Gilles Rosenberger, qui intervient, qui nous dit, voilà, en Europe, les trois quarts des aérodromes n'ont pas de contrôle aérien. Et ces terrains ne sont pas pour autant des lieux de trafic en tout genre. Oui, Charles Prats, c'est pas parce qu'il n'y a pas de douaniers que forcément ces aérodromes sont des lieux de trafic et non pas forcément.
Bien évidemment, prenons exemple français. La France, quand vous avez des grands aéroports, Vous avez des terrains secondaires et vous avez aussi des, ce qu'on appelle des bases ULM, des altisurfaces, des pistes en herbe. Vous pouvez même, si vous avez un ULM, vous poser chez vous. Vous avez le droit de le faire. Vous avez votre champ, vous le déclarez comme une piste auprès de la préfecture et vous créez votre propre piste chez vous. Et c'est pas pour autant que ça trafique dans tous les sens.
Pardon, mais qu'est-ce qui m'empêcherait, pardon, de transformer donc mon champ en aérodrome de trafiquants?
Non, en aérodrome non, parce que si vous êtes en aérodrome...
Alors pas en aérodrome, allez,
en piste ULM. Rien, sauf que, objectivement, vous ne pouvez poser là-dessus que de très petites machines. Derrière, c'est monter une logistique très compliquée pour faire du trafic avec ce genre de petites machines, pour finalement une capacité d'emport qui est très réduite et des risques très importants pour vous. Alors après, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas vous poser... en sauvage, en pleine campagne, et faire du trafic comme ça. Mais alors, cela étant, dans ce cas-là, on va même plus loin. Qu'est-ce qui se passait pendant la guerre? Comment les Anglais ravitaillaient la résistance française? C'était du parachutage. On se posait même pas, on parachutait le matériel, les armes, etc. Donc, vous pouvez aussi très bien imaginer des avions qui passent la nuit, qui parachutent de la drogue ou que sais-je, sur des champs avec des balises lumineuses. Enfin, là, on peut aller comme ça très très loin. On peut faire des films aussi... À l'infini, donc.
Je pense pas qu'on fasse des films, ça existe malgré tout.
Bien évidemment, bon. Ça existe, tout comme les semi-remorques servent à transporter de la drogue, tout comme les voiliers servent à transporter de la drogue, tout comme les voitures servent à en transporter. À partir du moment où vous avez un moyen de transport, forcément,
il
va être utilisé. C'est tout.
Et comment luttent les compagnies, justement, Gilles Gompers à la tête d'Avico, donc je le dis, vous êtes premier courtier, vous faites de l'affrètement aérien. Les compagnies, est-ce qu'elles sont toujours regardantes avec leurs passagers ?
C'est une vraie question, parce qu'effectivement, la confidentialité fait partie de l'aviation d'affaires. Pourquoi ? C'est pas parce que les gens ont des choses terribles à cacher. C'est que les affaires se font avec l'aviation d'affaires, avec des préavis très courts, où on transporte effectivement des présidents, des directeurs généraux, qui vont conclure des affaires, qui doivent rester effectivement sous les radars de gens comme vous, pour pouvoir se conclure en toute quiétude. Et c'est justement pour ça aussi qu'ils vont utiliser des avions d'affaires. C'est pour avoir, c'est effectivement, cette tranquillité dans leurs déplacements, et là ça fait partie de l'ADN de l'aviation d'affaires. C'est normal, c'est logique. Ensuite, que cette caractéristique soit dévoyée par des trafiquants, c'est possible. Mais effectivement, la confidentialité fait partie de l'aviation d'affaires, la réactivité, le fait de lancer des vols du jour au lendemain, ça fait partie de l'aviation d'affaires. C'est justement parce qu'on a une affaire urgente et qu'il n'y a pas un vol direct pour y aller qu'on va affréter un avion. Et effectivement, ça c'est structurel.
Mais est-ce que les compagnies sont amenées à refuser des clients?
Il faut qu'elles le fassent. Clairement, c'est exactement ce qui n'a pas été fait dans cette affaire.
Oui, parce que dans cette affaire, je voulais pas forcément y revenir, mais il y a quand même 26 valises quand même. Bon. Est-ce qu'à un moment, la compagnie, 26 valises, 600 kilos de cocaïne, a priori, hein, là, on n'a pas eu complètement les éléments du dossier, mais bon. Les pilotes, les fameux pilotes qui se sont évadés, à un moment, ils voient 26 valises, ils se disent pas, tiens, qu'est-ce que ça peut être dedans?
Écoutez, tout le monde a X anecdotes, effectivement, de transports qui sont totalement baroques et qui sont ni de la cocaïne, ni de l'or, ni de l'argent.
Ouais.
Vous avez effectivement quelqu'un qui va emmener des chocolats en Arabie et qui va affréter un avion pour emmener ces chocolats. Ce sont des choses qui arrivent, effectivement. Vous avez tellement de cas. On est quand même dans l'aviation d'exception.
Ouais, ouais.
Et on a des cas qui sont exceptionnels. Ouais. C'est pas parce qu'ils sont exceptionnels, effectivement, qu'ils sont nécessairement dévoyés. Et effectivement, vous avez tellement de cas qui sont ahurissants, qui sont incroyables. On affrète un avion pour amener effectivement du caviar pour une fête.
C'est quoi, dans votre mémoire, les cas les plus extravagants, les plus exceptionnels de transport, de marchandises ? Légal, hein, je parle dans l'aviation d'affaires.
C'est effectivement, on va chercher une bonne bouteille dans le Bordelais, et puis on va envoyer un avion avec un hélicoptère. Ouais. C'est vrai que c'est un autre monde.
Ouais, ouais.
Et ça, c'est aussi une partie de l'aviation d'affaires. C'est une partie qui est loin d'être le core business de l'aviation d'affaires. Mais elle existe, elle fait partie du modèle, elle est intégrée à la structure. Et du coup, effectivement, les compagnies doivent répondre très vite, doivent garantir la confidentialité de l'opération, et peuvent se laisser embarquer par un trafiquant. C'est concevable.
Franck Goldnadel.
Oui, moi je voudrais revenir sur ce que disait Gilles. Je crois que confidentialité ne veut pas dire zéro contrôle. C'est ça qui est important. Et revenir aussi sur le fait qu'il ne faut pas jeter l'opprobre sur cette activité. C'est le Bourget, c'est 9000 emplois directs et indirects. C'est le premier aéroport d'aviation d'affaires. C'est important en Europe, c'est important pour le pays, c'est important pour les affaires, comme le disait Gilles, c'est important pour l'économie globale, et y compris de son territoire. Et donc, voilà, c'est pas parce que c'est une aviation d'exception, c'est pas parce que c'est une aviation très réactive en fonction de clients qui ont besoin de partir dans l'urgence, qu'encore une fois, les contrôles ne sont pas faits. Les contrôles sont faits, il y a eu beaucoup d'améliorations d'un sujet là. Que ce soit le passager ou son bagage, les contrôles sont effectués, les services de l'État sont présents, et je crois qu'il est important dans un pays qui veut trouver sa place en Europe et dans le monde, qu'on puisse bénéficier à la fois d'aéroports dits de transport public et en même temps un grand aéroport d'aviation d'affaires.
Bon, on va continuer dans un instant. Est-ce que les jets privés sont les nouveaux vaisseaux des contrebandiers? On continue les décodeurs de l'écho donc ce mercredi soir sur BFM Business, télé, radio. On revient tout de suite.
L'écho s'éclaire sur BFM Business. Fabrice Lundy reçoit les décodeurs de l'écho.
N'oubliez pas tout à l'heure Richard Attias qui organisait le forum économique de la francophonie ce matin à Paris des chefs d'État et de gouvernement. Il sera avec nous à 20h. La francophonie se met-elle au service de l'économie? Voilà, question qu'on posera. En attendant, eh bien, pour terminer cette première partie des décodeurs de l'écho, les jets privés sont-ils les nouveaux vaisseaux des contrebandiers? Oui, Air Cocaïne, on en parle à la rubrique Fait divers. Hein, c'est un peu le nom de code pour évoquer l'affaire dont on parle, de ces deux pilotes exfiltré, évadé de République Dominicaine. C'est aussi le nom de l'enquête de ces deux journalistes, hein, Marc Le Plongeon et Jérôme Pierra. Donc là, Marc Le Plongeon est journaliste au Point. Et il explique à Jean-Baptiste Huet si justement eh bien, les jets privés ont remplacé les bateaux, les camions et autres, hein, servant au trafic. On l'écoute, on revient.
Est-ce que les avions d'affaires ont remplacé les anciens moyens de transport? Non, on a encore beaucoup de transport de cocaïne par cargo, on en a par avion, de ligne notamment, on a encore beaucoup d'affaires cette année. Rappelons au passage que cette année est une des plus prolifiques en termes de saisie de cocaïne. Cela étant dit, oui, on peut se poser la question, et surtout avec l'affaire cocaïne, de l'utilisation de moyens discrets, rapides, que propose l'aviation d'affaires. L'aviation d'affaires, ce sont en général des petits aéronefs, des aéronefs légers qui peuvent aller d'un point A à un point B en changeant leur plan de vol au dernier moment. Alors évidemment, il y a des déclarations à faire, on doit avoir l'identité du passager, il y a ce qu'on appelle des GENDEC, il y a tout un tas de formulaires administratifs, mais reste qu'il y a une souplesse qu'offre l'aviation d'affaires qui permet de ne pas passer 2 heures à attendre à l'aéroport. On peut franchir les portiques de sécurité sans fouille ou presque. Voilà, on peut passer vraiment très très rapidement. D'ailleurs, c'est fait pour ça, hein, puisqu'il y a les patrons qu'il utilise énormément pour aller à des rendez-vous d'affaires aux quatre coins du monde. Donc c'est ça ce qu'offre l'aviation d'affaires, et on peut donc imaginer qu'il y a effectivement une utilisation dérivée de l'aviation d'affaires à des fins de trafic. On peut par exemple atterrir sur un aéroport où il n'y a aucun poste de douane, avec le risque qu'il y ait une intervention spontanée de la douane, mais c'est pas toujours le cas, parce qu'il y a de nombreux aéroports aujourd'hui et d'aérodromes où il n'y a absolument pas de poste de douane. Et donc, on peut atterrir avec un déchargement, ce qu'on appelle au cul de l'avion, c'est-à-dire la voiture qui va franchir les grilles de l'aéroport, se mettre directement à côté de l'avion, décharger les valises, et on repart comme ça.
Voilà, donc Marc Le Plongeon, co-auteur de l'affaire Air Cocaïne, donc avec Jean-Baptiste Huet, il parlait de souplesse. Franck Goldadel, vous êtes directeur général adjoint d'aéroport de Paris. Alors c'est vrai, quand on arrive à Charles de Gaulle, Roissy, cette grosse machine, on voit des douaniers qui sont en nombre, hein, qui scrutent les bagages, mais vous gérez aussi le Bourget, première plateforme d'affaires en Europe, mais pas que. Il y a Toussul-Nob, il y a Saint-Cyr-l'École, il y a Pontoise-Cormeil. Bon, j'en ai d'autres, évidemment, il y en a d'autres en magasin. À chaque fois, franchement, il y a des contrôles, il y a les douanes qui sont là, ce qu'ils disent, ce journaliste, vous dites, non, il a fabule.
Déjà, ce que dit le journaliste, alors il ne cite pas les aéroports qu'il cite, mais moi, ce que je peux vous dire simplement, c'est que, au contraire de ce qui vient d'être indiqué, quand vous prenez un avion d'affaires au Bourget, vous passez sous des contrôles de sûreté quand vous êtes passager. Et votre bagage est aussi analysé. Donc, et le personnel est aussi...
À l'arrivée comme au départ. Hein.
Alors, dans le transport aérien, ce qui est important de savoir, c'est que pour assurer la sûreté du vol, la sécurité du vol, vous êtes contrôlé au départ. Après, il y a effectivement les douanes qui sont là pour vous contrôler à l'arrivée.
À l'arrivée, au retour.
Quand vous prenez l'avion, vous le savez, vous passez, une fois que vous avez récupéré votre bagage de soute, vous passez devant un contrôle douanier. Il y a des douaniers qui sont là aussi au Bourget et qui assurent un contrôle en fonction d'un certain nombre de critères que je n'ai pas ici à développer. Mais je veux dire, ça fait partie du travail du douanier de savoir quand et comment il doit contrôler.
Oui, même si on sait que c'est un prince saoudien et qu'il faut un petit peu ménager certaines, enfin je cite les saoudiens comme j'aurais pu citer d'autres nationalités, on va pas contrôler n'importe qui, n'importe comment, n'est-ce pas?
Vous savez que les règles s'appliquent en fonction de la nature du passager. Oui. Il est clair qu'aujourd'hui, un président de la République ou quelqu'un, une autorité diplomatique, possède un certain nombre d'immunités, n'est pas soumis à un certain nombre de contrôles. Ça, c'est clair, c'est cadré, hein, les procédures existent. Mais pour le reste, tous les passagers sont soumis au même contrôle.
Charles Prat, c'est avec nous, il est magistrat, il est ancien douanier, il est pilote également. Vous pilotez quoi, Charles?
Alors, en ce moment, moi, je pilote du biplan. Je suis repassé à l'ULM. Hein, bon. Mais dans une vie antérieure, j'ai été élève pilote d'Inch Air France. Il y a très longtemps, il y a plus de 25 ans maintenant. Oh,
vous étiez jeune et beau à l'époque. Charles Prat, on va pas généraliser.
J'ai aussi travaillé pour l'aéroport de Paris pendant 4 ans.
Bon, on va pas généraliser. Les jets privés n'ont peut-être pas forcément remplacé les anciennes filières, style bateau, camion, et vous nous l'expliquez depuis un petit moment. Qu'est-ce qu'on transporte par jet privé? Qu'est-ce qu'on arrive à transporter par jet privé? Vraiment de tout?
On peut tout transporter, mais regardez, quand on parle de jet privé, on va parler de quoi? On va parler de Falcon, enfin d'avions, qui, quand vous êtes un pilote privé, c'est des gros avions. Donc, ça coûte cher d'affréter un appareil comme ça. Donc, pour transporter de la drogue, par exemple, si on parle de trafic de stup avec un appareil type Falcon, un biréacteur ou un triréacteur, il faut que vous ayez beaucoup de marchandises à transporter pour que ce soit rentable. Toutes les organisations criminelles n'ont pas les moyens d'utiliser ce type de transport. Voilà, il faut aussi maintenant complètement démystifier ce qu'on est en train de dire. Ça ne peut concerner que des livraisons énormes. Là, on parlait de 600 kilos et quelques de cocaïne dans cette affaire-là avec la République dominicaine. 600 kilos de cocaïne, c'est des dizaines de millions d'euros. Toutes les organisations d'importation de stupéfiants en Europe n'ont pas les moyens de faire des voyages de ce type-là. Il faut bien avoir conscience que, comme la saisie que la douane a faite il y a quelques jours, les 7 tonnes de cannabis dans Paris faites par la TRD, ça c'était pas par avion, ça c'est arrivé soit par bateau, soit par route, mais c'est une organisation qui est certainement très importante, et des comme ça, il n'y en a pas des dizaines en France, parce que pour faire venir des dizaines de millions d'euros de marchandises d'un coup sur un one-shot, ça coûte très cher, même pour les organisations criminelles. Donc, ça ne peut être qu'epsilonesque, ce genre de choses. L'utilisation de l'aviation privée comme cela pour du trafic, quand on voit les coûts que ça nécessite, les coûts d'investissement, les risques qui sont pris, et finalement, pour que le jeu en vaille la chandelle, il faut que ce soit de très grandes quantités. Forcément, on est sur du très marginal. Et là, il n'y a pas besoin d'avoir plus de réglementation. En fait, traiter ce type de dossier, ça se traite par le renseignement. Je vais pas rentrer dans le détail sur les techniques de ciblage, mais tout comme la DNRED a fait 7 tonnes de...
La direction de recherche et des enquêtes douanières.
Voilà, a fait 7 tonnes de cannabis il y a quelques jours dans Paris. Tout comme dans cette affaire-là, pour faire 600 et quelques kilos de drogue, forcément, c'était sur information soit de la DEA, soit de la DNRED française, voilà. Ça se travaille en renseignement.
Bien sûr. En amont, loin en amont, bien sûr. Qui est infiltré aussi.
Oui, non, mais tout à fait.
Les douanes ont le droit de faire.
C'est comme les bateaux, le principal vecteur de trafic de stupéfiants intercontinental, ça reste quand même le bateau, plus que l'aviation, sur les grandes quantités. Et voilà, et donc ce n'est pas parce que vous allez saisir X centaines de kilos de drogue sur un cargo que vous allez d'un seul coup interdire tout le transport maritime dans le monde.
Alors Gilles Gompert, c'est avec nous, c'est le patron d'Avico, un premier courtier aérien français pour l'affrètement d'avions, d'hélicoptères, on vous écoute.
Oui, un avion c'est cher, c'est aussi compliqué à mettre en œuvre.
C'est cher, c'est quoi?
C'est entre 2000 et 10 000 euros par heure de vol en fonction de la taille de l'avion. Donc effectivement, on est sur des budgets. Si vous voulez faire un transport intercontinental, vous êtes tout de suite, effectivement, vous venez toucher les 100 000 euros. Mais c'est aussi compliqué. Vous avez, on le disait, une forte traçabilité entre un plan de vol à déposer, avec tous les éléments à fournir sur chacun des vols, et puis un avion, on va pas le poser n'importe où. Un jet, il faut une piste de 1500 mètres en dur pour le poser. Là, on peut plus le mettre au fond du jardin. Il y a une telle facilité sur les autres moyens de transport, sur une voiture, un camion, c'est fluide. Un bateau, vous pouvez aller dans une crique. Vous allez quand même sur un vrai aéroport.
La compagnie, elle est responsable également de ce qu'elle transporte, si on se rend compte que la compagnie XYZ, par exemple, une compagnie d'aviation d'affaires, on se rend compte qu'il y a à l'intérieur 600 kilos de cocaïne, 26 valises, comme dans l'affaire de la République dominicaine. Est-ce qu'on peut venir vous chinoiser un petit peu ?
Oui, bien sûr. La compagnie est responsable, le patron de la compagnie est responsable, le commandant de bord, qui est le patron de l'avion, est responsable, bien sûr. Et c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Quand on voit effectivement, pour la recette que peut avoir la compagnie, prendre un tel risque, c'est la dernière chose, effectivement, que la compagnie souhaite faire.
Mais les avions privés, ils sont rapides, ils sont discrets, ils facilitent quand même un petit peu plus que... Les camions, les bateaux...
Aller l'acheter, il faut aller l'entretenir, il faut aller le suivre. Discret, il faut le dire vite.
Non, pas Franck Goldnadel.
Oui, je pense que c'est pas... C'est, l'aviation d'affaires, c'est quand même un métier très professionnel, très pointu, qui nécessite des règles, des procédures. Vous faites pas... L'aviation d'affaires, elle est là pour donner une souplesse à des clients de pouvoir partir rapidement. Mais ça veut pas dire que derrière, il n'y a pas de procédure, il n'y a pas de règles, des choses comme ça. Donc c'est une souplesse, mais encore une fois, ça veut dire contrôle quand même derrière.
Des contrôles, Charles Pratt, ça.
L'aviation d'affaires, ce sont des avions compliqués. Voilà, ce sont des gros avions, quoi qu'on en pense. C'est des petits avions par rapport à des avions de ligne, mais ça reste des gros avions. Ce qui peut offrir une souplesse, c'est soit de l'avion privé, de l'avion léger, soit de l'ULM. Ça, oui, vous avez de la souplesse. Mais alors, vous pouvez avoir encore plus de souplesse si vous avez ce qu'on appelle un paramoteur. C'est-à-dire simplement une aile de parachute au-dessus de vous et puis un moteur tondeuse à gazon dans le dos. Alors là, vous avez encore plus de souplesse. Vous décollez en 10 mètres et vous vous posez en 5 mètres. Dans ce cas-là, si on veut aller plus loin. Il faut bien avoir conscience que pour un trafiquant, ce qui va être intéressant, c'est la capacité d'emport du vecteur par rapport à sa vitesse et par rapport à sa discrétion. Bon. Si on raisonne en intercontinental, le plus simple, ça reste le bateau. Et c'est pour ça que vous avez beaucoup de trafic qui se font notamment par des voiliers. Mmh. Et c'est aussi très surveillé. On arrive à les repérer, des voiliers ou des cargos. Voilà. L'avion, c'est tout sauf discret. L'avion, il vole. S'ils volent à une certaine altitude, les systèmes de détection aérienne militaire, parce qu'on est aussi, parce qu'on parle d'aviation civile, mais la France est aussi couverte et l'Europe est couverte par des systèmes de détection intégrés militaires, avec, bon, on va pas rentrer sur le type de système de détection, mais bon, vous avez 500 de détection de l'armée de l'air. Donc, un mouvement aérien va être détecté de toute manière par l'armée de l'air. Et s'il ne correspond pas à quelque chose qui est enregistré, et s'il est dans un espace aérien contrôlé, l'alerte va être assez vite donnée. Voilà. Ce qui peut passer en dessous du radar, c'est de l'appareil très petit, mais qui là, pour un trafiquant, aura finalement assez peu d'intérêt. L'intérêt, c'est qu'il pourra se poser un peu n'importe où, oui. Y compris dans un champ ou dans un chemin. En revanche, la capacité d'emport est quasi nulle. Et malgré tout, pour pouvoir être discret, il faudra faire des vols de nuit avec des machines qui sont pas forcément équipées. Et aussi un pilote, il faut qu'il sache piloter de nuit. Voilà. Après, il y a une certaine technicité à avoir. Donc au final, le jeu n'en vaut pas la chandelle. Et un bon go-fast, c'est quand même plus simple qu'un avion
privé. Les go-fast, c'est les voitures donc extrêmement rapidement qui remontent donc de l'Espagne en direction soit de Marseille, soit de la région parisienne en roulant extrêmement vite donc avec plusieurs véhicules.
Ou une voiture qui descend de Hollande avec.
Oui, bien entendu, avec de la marchandise, voilà. Pareil. Non, vous parlez de l'Espagne pour la drogue qui vient du Maroc.
C'est beaucoup plus simple finalement pour un trafiquant d'utiliser le vecteur terrestre que le vecteur aérien. Et en fait, contrairement à ce qu'on pourrait croire dans le débat de ce soir, le vecteur aérien est plus un vecteur de lutte contre la fraude et de détection justement des fraudeurs qu'un vecteur de fraude en tant que
En tant que tel. Bon, allez, puisqu'il nous reste quelques minutes, c'est l'occasion de parler aussi du secteur de l'aviation d'affaires, puisque bon, sur BFM Business, bien sûr. L'aviation d'affaires, la crise de 2008-2009, est-ce que la page est vraiment tournée à l'époque? Il y avait plus de 1300 livraisons annuelles de jets. Gilles Gompers à la tête d'Avico.
Non, la page n'est pas tournée. Effectivement, on n'a pas encore retrouvé l'euphorie des années d'avant-crise. Et puis, c'est quelque chose aussi qui est dérangeant. C'est vrai que là encore, il faut le dire et le redire, l'aviation d'affaires, c'est avant tout l'aviation pour les sociétés, pour les affaires. Et c'est quand même vu comme indécent que d'aller utiliser un avion d'affaires en période de crise. Est-ce que c'est du confort? Est-ce que c'est de l'efficacité? Il est évident que c'est un vecteur d'efficacité pour les affaires. Par contre, effectivement, c'est un vecteur qui est coûteux. Qu'est-ce qu'on doit faire par rapport à ça? Et surtout en France, on reste quand même dans ce traumatisme où on ne peut pas afficher du transport en aviation d'affaires. Et effectivement, il y a une partie de la confidentialité qui est liée aussi à ça. Du coup, on a eu une contraction naturelle de l'activité. On retrouve...
C'est d'avoir un avion d'affaires, quelque part.
C'est tout à fait. Vis-à-vis, quand vous cherchez à serrer les boulons, c'est difficile de dire qu'effectivement, vous allez voyager en avion d'affaires. C'est délicat, c'est un vrai problème. Donc, effectivement, on est dans cette contraction.
Il y a il y a évidemment la Chine qui se porte un petit peu moins bien, nécessairement, ces zones de turbulence. L'Ukraine a un petit peu secoué l'Europe, donc la Russie, évidemment, en conséquence. Donc, évidemment, tout ça n'est pas favorable à l'aviation d'affaires.
Oui, mais vous avez aussi beaucoup de vols qui sont intracommunautaires, parce qu'effectivement, quand vous vous vivez dans une petite ville qui n'est pas Paris, vous n'avez pas une desserte aéronautique qui est facile. Et honnêtement, si vous êtes dans une petite ville, c'est tellement facile de prendre un avion pour aller faire le tour, effectivement, de vos points de contact en Europe et de gagner 2 jours ou 3 jours sur un voyage parce que vous allez sur 3 destinations, ça a un sens fou quand même.
Oui, vous le sentez, vous, Franck Goldadel, vous, là, les patrons d'aéroports de Paris, et notamment, évidemment, en charge du premier aéroport d'aviation d'affaires qui est le Bourget. Oui. Vous sentez un petit peu cette frilosité ?
Frilosité, comme toujours, mais dynamisme aussi, c'est-à-dire que c'est un aéroport qui se développe. Les équipes d'aéroports de Paris, ainsi que tous les acteurs d'assistance ou les constructeurs d'avions sont présents sur l'aéroport du Bourget, font qu'il y a une sorte de synthèse qui est faite de tous les acteurs pour développer cette plateforme. On a des atouts. On va chercher du trafic, on va essayer de convaincre tel ou tel acteur de venir sur le Bourget. Donc oui, on sent bien que, compte tenu de ce que vous disiez sur l'économie mondiale, il y a des facteurs qui peuvent ralentir, mais globalement, on pense à un développement de cette activité, parce qu'elle répond à un besoin, c'est ce que disait Gilles, elle répond à un besoin qui va à côté des besoins du transport d'aviation civile.
Oui, on le disait, le Bourget, c'est le premier aéroport d'affaires donc en Europe, devant Genève, devant Nice-Côte d'Azur, Luton, Londres, Vnukovo, c'est donc Moscou. Comment les aéroports d'affaires se battent, font la guerre quelque part pour aller attirer le plus possible donc sur leur piste?
Bien, c'est une question effectivement d'attractivité. Alors, il y a plein d'acteurs et plein d'éléments qui concourent à cette attractivité. Il faut d'abord avoir une plateforme qui permet de le faire. On a cette chance à Paris, avec l'ensemble des acteurs. Je parlais d'aéroports de Paris, des acteurs d'assistance, des services de l'État qui assurent une permanence, qui permet d'avoir un service en continu. Vous avez aussi un certain nombre d'acteurs constructeurs qui sont présents autour du Bourget. Je parlais tout à l'heure des 9000 emplois directs et indirects, mais il faut savoir qu'autour du Bourget, vous avez toute une zone d'aviation d'affaires qui génère elle-même aussi de l'activité. Et donc tout ça fait que vous générez une possibilité d'avoir des acteurs qui développent l'activité.
Oui, Gilles Gompère-Savico.
Et c'est vrai qu'il faut avoir un aéroport qui est pratique. On est en concurrence avec d'autres modes de transport. Le Bourget, c'est magique. C'est un jet de pierre de Paris. La piste est longue. On peut poser des gros avions. Il est ouvert. Il a des horaires d'ouverture qui sont assez larges. Là, c'est un outil performant. Si on commence effectivement à restreindre la performance de l'outil, parce que c'est plus difficile d'y aller, parce qu'il faut des préavis plus longs, parce qu'il y a plus de contraintes.
Parce que ça fait du bruit, parce que ça pollue, bien sûr.
Là, effectivement, on va avoir ce frein sur le trafic et on va le ressentir directement.
Juste une dernière question à vous, Gilles Gompère, parce que vous parlez donc de l'aviation d'affaires qui peut avoir l'image de l'aviation de riche quelque part, et puis il ne faut pas se montrer. Est-ce qu'il y a ce phénomène également d'ubérisation, de blablacarisation dans l'aviation d'affaires? Finalement, voilà, il reste une place, on va sur Internet et puis on monte dans l'avion, ça fonctionne maintenant de plus
en
plus?
Je le formulerai un petit peu différemment.
Alors dites-moi.
On part effectivement d'un système qui était plus élitiste, et effectivement on sent qu'il y a des marges de croissance avec une baisse des prix et effectivement une élasticité et un volume plus important.
Une démocratisation aussi?
Démocratisation, ça serait sans doute pas le bon oui. terme, mais une utilisation plus fréquente, certainement. Il y a des pistes là-dessus, et notamment à travers la multipropriété et à travers la gestion des vols à vide. Multipropriété, si j'ai un avion pour moi tout seul, je ne voyage pas tant que ça, non. L'avion ne va pas travailler beaucoup. Si je partage mon avion, effectivement, c'est quelque chose qui marche bien. La multipropriété a pris un vrai volume effectivement de marché, parce qu'elle permet d'avoir des taux d'utilisation des machines qui sont supérieurs. Et puis, il y a un autre élément qui est intéressant, c'est que finalement, un homme d'affaires, il va partir d'un endroit pour aller à un autre, s'il reste d'une semaine, qu'est-ce que je fais de l'avion? Je le ramène à sa base, je le laisse sur place, etc. Si je suis capable d'enchaîner des vols pour des clients différents avec plus d'astuces et plus d'efficacité, je vais réduire le nombre de vols à vide, et là, il y a un gros potentiel encore pour optimiser. Mmh. Sans aller jusqu'à partager le même avion, ce qui commence à se faire mais qui n'est pas encore rentré dans les mœurs, je pense que c'est plutôt le coup d'après. Déjà, le fait de partager un avion sur des vols différents et pas mettre plusieurs passagers différents sur un seul vol, on en a encore sous le pied pour optimiser.
Voilà, donc c'est l'évolution donc à suivre pour l'aviation d'affaires. Vous restez avec nous dans un instant, celui qui organise les plus grands sommets internationaux, Richard Attiès. Il organisait aujourd'hui la 2e édition du Forum économique de la francophonie à Paris. Oui, la francophonie se met-elle au service de l'économie? C'est la question qu'on posera. Je remercie nos décodeurs de l'écho qui sont venus nous dire que finalement les jets privés ne sont pas forcément les nouveaux vaisseaux des contrebandiers, malgré cette affaire Air Cocaïne. Gilles Gompers à la tête d'Avico, donc premier courtier routier aérien français spécialisé donc dans l'affrètement d'avions, d'hélicoptères. Franck Golnadel, qui est l'un des dirigeants d'Aéroports de Paris, c'est le patron de Charles de Gaulle, mais aussi il est chargé des opérations aéroportuaires et c'est le directeur général adjoint de toute la structure. Et puis le magistrat, ancien douanier, pilote, qui est Charles Pratt. On a hâte de le retrouver évidemment prochainement dans les décodeurs de l'écho. Les décodeurs qui reviennent, vous restez avec nous. Rendez-vous dans 2 minutes sur BFM Business. Bonne soirée, à tout de suite.
Les décodeurs de l'écho sur BFM Business.